Nous étudions l'évangile de Marc depuis quelques semaines et nous arrivons donc à l'endroit dans Marc chapitre 4 où Jésus enseigne le royaume de Dieu et l'annonce à travers des paraboles. Une parabole, c'est une histoire qui est énigmatique et qui oblige la réflexion pour comprendre son sens, qui demande quelque chose de nous, mais qui à la fois révèle le royaume de Dieu et voile le royaume de Dieu en dépendant de l'attitude de ton cœur. Le cœur docile et travaillé par la grâce de Dieu, si tu l'as, la parabole t'attire. Qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur ? Et son sens répond à quelque chose dont tu sens en tant que besoin. Pour le cœur suffisant en soi, rebelle, cette parabole semble bizarre, sans pertinence, et ne provoque aucune démarche de recherche. Mais nous lisons donc dans le texte à partir du verset 26, c'est juste après la parabole du semeur, et notre Seigneur prononce ces mots devant ses disciples et probablement devant d'autres aussi. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qui dort ou qu'il veille nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, sans son activité, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le représenterons-nous ? Il est semblable à un grain de sénévé, de moutarde, qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre, les semences de jardinières. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes, pas que toutes les plantes, mais que tous les légumes, il parle dans le contexte du jardin, et pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Jésus est arrivé il y a 2000 ans et il a apporté le royaume de Dieu. C'est quoi le royaume de Dieu ? C'est l'invasion de Dieu et de son règne parmi les hommes. C'est cet avenir que l'Ancien Testament avait annoncé, cet avenir où le paradis va revenir, tout prendre, s'installer sur la terre. Dieu sera roi, il n'y aura plus de méchants, la connaissance de Dieu se répandra sur la terre comme les eaux sur le fond de la mer. Le salut sera complet, nous serons parfaits. Il n'y aura que tout ce que Dieu donne et veut. Imaginez, Dieu règne complètement, ça veut dire tout ce que Dieu donne et tout ce qu'il veut, c'est tout ce que nous connaissons. Gloire, 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 comme dans sa présence glorieuse, une félicité inimaginable. Le royaume de Dieu. Jésus est venu apporter le royaume. Et maintenant, il en arrive à expliquer ce royaume. On voit déjà le royaume est présent parce qu'il guérit des gens miraculeusement. Il y a une puissance d'un autre monde, d'un monde parfait, de la gloire de Dieu. Il y a ce monde qui a envahi parce que là où Jésus passe, les choses sont complètement changées. Ainsi, Jésus montre historiquement devant les hommes de pour tous les temps que le royaume de Dieu a fait son entrée. L'inauguration est là. Mais les Juifs s'attendaient à ce que le royaume vienne d'un coup. C'est-à-dire, quand le Messie vient, c'est la fin, c'est la perfection, c'est la gloire, ça vient en puissance, les méchants sont jugés d'un coup, le peuple de Dieu est glorifié et tout ce que j'ai décrit tout à l'heure est présent. Jésus doit donc désabuser les Juifs de cette idée. Et le mystère du royaume de Dieu, dont il parle dans la parabole du Seigneur, du semeur, lorsqu'il dit « le mystère du royaume de Dieu vous est révélé, mais pour les autres, ça vient en parabole. » Quel est le mystère ? Le mystère, c'est que ce royaume gigantesque et glorieux est déjà là, présent dans la personne de Jésus-Christ, mais d'une manière pas du tout cataclysmique, une manière humble, cachée, œuvrant déjà pour beaucoup et invisiblement. Et c'est ce mystère que les disciples devaient comprendre pour qu'ils puissent croire que tu es vraiment le Messie. Comment peux-tu être le Messie? La fin du monde n'est pas là. Voici les méchants, voici la souffrance. Et le mystère du royaume, c'est qu'il est déjà là, mais nous n'avons que les commencements du royaume pour le moment. Jésus commence donc à annoncer ce mystère de la modalité de la venue du royaume, la manière dont Dieu vient pour nous sauver des hommes par des paraboles. Et nous avons vu que par la parabole du semeur, Jésus nous montre que le royaume de Dieu ne va pas venir ni à cette époque ni maintenant, si vous n'êtes pas chrétien ou si vous êtes chrétien, ça ne va pas venir ou grandir en vous de manière dans une puissance qui n'est résistée par personne. C'est-à-dire, tous ne vont pas croire. Ce n'est pas dans l'éclat. La parabole du semeur nous montre 4 sols et dans 3 sols, échec. La semence est semée, entre guillemets, l'échec, bien sûr. Parce que là, le royaume est en train de venir dans une forme qui se permet intentionnellement, qui permet d'être refusé. Et donc, qui engage votre réponse. Dieu ne va pas vous convertir malgré toute pensée, toute réponse de votre part. Ce n'est pas vrai. La semence vient dans la terre et vous allez répondre. Je ne vais pas vous parler de la souveraineté de Dieu pour le moment parce que cette parabole accentue la responsabilité humaine et c'est une vraie vérité et vous n'allez pas vous convertir à moins d'écouter, d'ouvrir le cœur et de répondre vous. C'est une vérité et nous allons prier que Dieu vous donne la grâce de le faire. Mais vous allez le faire si vous venez à Christ. Donc, la manière dont vous écoutez est très importante. Ça détermine tout pour l'avenir, dit cette parabole du semeur. Et il faut savoir que certaines réponses immédiates, Jésus ne se fie pas à ces réponses. Parce que dans cette parabole, nous apprenons qu'il y a une joie au début pour la parole, mais ça ne dure pas. Dans la parabole, nous apprenons que Jésus attend une réponse d'une manière différente, qui est profonde, qui n'est pas un feu de paille. Et quand il y a cette réponse-là, la moisson, l'effet de la parole dans ta vie est très grande. Il parle de 30, 60, 100. Si j'avais des actions à la bourse qui me rendaient 30 fois, 60 fois, 100 fois, je serais riche. Je serais carrément riche. Et Jésus dit, le royaume est comme ça. Là où vous êtes réceptif, il y a un salut, un changement, une justice devant Dieu, une paix qui est multipliée abondamment dans ta vie. Voilà pour la parole du semeur. Mais maintenant, nous arrivons à une autre parabole. En fait, deux paraboles. D'abord, la parabole de la semence qui grandit tout seul. Et nous allons rapidement regarder cette parabole et la suivante, simplement par trois questions. Comment est-il le commencement? Comment est-il le milieu? Et comment est-elle la fin de cette semence ou de ce qui se passe dans cette parabole? Alors, vous voyez que faites attention parce que les paraboles sont différentes. Et même en utilisant des images similaires, peuvent mettre des sens différents dans la même métaphore. Voilà ce que je veux dire. Dans la première parabole du semeur, tout concerne l'action de semer. Et dans cette parabole, nous avons la semence qui se passe constamment dans la parabole. OK ? Et c'est ça qui nous concerne. Dans la deuxième parabole, ce n'est pas tellement l'action de semer qui nous concerne. Nous arrivons quand c'est déjà fini. C'est fini, il n'y a plus de semence. Et nous sommes dans une période entre deux, entre la semence et la moisson, et on voit la croissance des plantes entre deux. OK ? Maintenant, lisez avec moi et vous allez voir. Et je vais vous lire en utilisant les tons des verbes en grec. Et vous allez voir pourquoi cela a été important. Jésus dit ceci, verset 26. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme, ou on pourrait dire, c'est comme si un homme avait jeté, parce que c'est dans un passé aoriste, donc une action finie. Qui n'est pas continuel, c'est fini. Qu'un homme aurait jeté de la semence en terre, ou je devrais pratiquement utiliser le passé simple. Un homme jeta une semence en terre, et maintenant ça c'est fini, la semence. Et il dit, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît, et là ces verbes sont dans le présent. On pourrait les traduire presque la semence est en train de germer et de croître sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, et puis l'épi, et puis le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille. Qui est ce semeur? Je crois que nous devons penser que ce n'est pas nous les semeurs. C'est le Christ lui-même. Il vient et il fait une chose une fois pour toutes et on ne va pas le répéter, nous. C'est vrai que sous un autre angle, nous semons la parole et l'évangile constamment. Mais ce n'est pas de ça que Jésus est en train de parler pour le moment. Il est venu implanter quelque chose dans le monde. Le salut, le royaume est venu. Il a fait venir une bonne fois pour toutes. Et maintenant, ce qu'il a installé dans le monde à travers sa mort, sa résurrection, est présent désormais, bien qu'il soit parti physiquement. Et maintenant, ce royaume travaille. Nous voulons parler donc d'abord du commencement. Le commencement, c'est un homme aurait donc semé de la semence en terre. Et je ne vais pas dire plus sur cela parce que je vous dis que nous, on arrive lorsque la semence est faite. Simplement, je voudrais vous dire que les Juifs s'attendaient à ce que le Christ vienne avec une puissance glorieuse et une puissance de roi qui oblige et qui force tout le monde de venir dans le royaume de Dieu. Et il est venu comme un semeur. Un semeur, c'est rien. cette action, lorsque le monsieur va dans son champ et il sème, il prend 2 ou 3 jours, 1 semaine, 2 semaines pour semer, et puis ça y est, c'est pas glorieux. C'est une action qui il peut même avoir des craintes par rapport à qu'est-ce qui va arriver maintenant. Je ne peux plus rien faire par rapport à cette semence. Et donc, voilà, on verra. Je ne mets pas Jésus dans cette attitude, mais je veux dire que dans une semence, c'est comme ça. Le milieu. La parabole nous dit que qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment la terre produit d'elle-même. Qu'est-ce que Jésus veut nous montrer? Nous avons l'image d'un vignoble quelque part dans notre belle région. Et je suis allé il y a 2 jours avec des amis qui sont venus visiter de loin dans notre pays. Et je voulais qu'ils voient les vignes. Donc je les ai amenés. Il était midi, vraiment trop chaud pour marcher dans les vignes. Mais on a fait quand même 100 mètres pour aller juste au début des vignes, montrer que les raisins étaient prêts. Et donc on a vu des vignes à perte de vue. Mais on n'a vu personne, aucun ouvrier, personne, parce que personne n'est nécessaire. Depuis des semaines et des mois, les plantes sont en train de pousser d'elles-mêmes sans l'activité humaine, sans que le semeur vienne donner un coup de pouce, remuer la semence un peu, souffler dessus, l'encourager, « Vas-y, vas-y, tu peux le faire !» Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne fait rien. Il ne peut rien faire. Jésus par là est en train de nous dire que en venant dans le monde, le Seigneur Jésus-Christ a installé dans ce monde quelque chose de tellement puissant que ce royaume, bien sûr, opéré par le Saint-Esprit, utilisant l'Évangile et la parole de Dieu, et même nous utilisons, notre moyen est dispensable. Il faut que la semence continue dans un sens, bien sûr. Bien sûr. Si le sol n'a pas de contact avec la semence, il n'y a pas de plante, bien sûr. Mais nous sommes en train de regarder d'un angle un peu différent. Et ce que nous voulons comprendre pour nous-mêmes, parce que c'est très important pour l'Église, c'est que ce qui arrive vraiment en termes de conversion, de croissance spirituelle, ce n'est pas parce que nous avons fait quoi que ce soit. En dehors de toute action que je peux ou que vous pouvez opérer invisiblement, sans que nous sachions comment, Dieu fait son travail d'une manière irrésistible, invincible et continuelle. C'est ça le deuxième point. C'est ça le entre-deux, entre semences et moissons. Cela, Paul le souligne en 1 Corinthiens 3, les versets 5 et 7. Et je veux juste vous lire ces versets et vous allez voir pourquoi je les ai choisis. Paul dit dans ce passage le suivant, à une église qui pensait que l'agent humain y était pour quelque chose, pour le salut. Moi, je suis de Paul. Toi, tu es d'Apollos. Lui, il est de Céphas. Et là, il y a un problème, parce que les gens ne comprennent pas cette parabole. Ils pensent que l'agent humain est la source de quelque chose. Donc, pour régler ce malentendu, Paul dit ceci dans le verset, je vais commencer au 4. Quand l'un dit « Moi, je suis de Paul » et un autre « Moi, d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes, de simples hommes? Vous pensez comme des hommes charnels. Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul ? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, voilà la semence. Hein ? Paul pense peut-être à la parabole de Jésus. Mais Dieu a fait croître, c'est-à-dire l'agent, ces semeurs Paul et Apollos n'y sont pour rien. Mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. C'est encourageant pour nous dans cette petite implantation d'église, n'est-ce pas ? Ce n'est pas nos dons, ce n'est pas notre connaissance, ce n'est pas notre personnalité, ce n'est pas nos techniques de marketing. C'est Dieu qui fait croître et nous ne savons même pas comment. Dans les années 1920, il y a eu un réveil dans la Drôme. Ce réveil était étonnant. On en parle toujours. Des centaines de personnes, des milliers, sont venues au Seigneur. On nous dit que dans les 6 premiers mois, 300 personnes sont converties dans la Drôme, dans des villages perdus, mais vraiment perdus. Et tout cela a commencé un jour quand un pasteur est venu prêcher dans une église qui était presque morte. Et après pendant la prédication, une dame a demandé la parole et a interrompu le pasteur. Elle a dit « J'ai compris que je ne dois plus vivre pour mes petits fromages et ma ferme, mais que Dieu n'est pas satisfait de moi, de ce que je lui donne. » Et désormais, je vais vivre pour Christ. Elle est tombée en larmes. D'autres étaient très touchés. Et de cette étincelle, un réveil a commencé qui a bouleversé la vie jusqu'au point où, rendez-vous compte, nous sommes à Puy-Loubier en plein fête de village, fête annuelle. Une semaine jusqu'à 2h le matin, nous n'avons pas dormi. Hein. Donc, ces fêtes m'ont très loin. Parce que dans les années 20, les pasteurs du réveil nous disent qu'il y avait des fêtes de village comme ça, des fêtes annuelles, qui étaient une grande source d'immoralité parmi les jeunes. Et on nous raconte que pendant le réveil, dans certains villages, ils ont arrêté la fête du village. Parce que les jeunes, et c'est écrit dans les archives de la mairie, les jeunes ont demandé à ne plus danser. Voilà. Vous allez dire, mais comment ? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour à cette dame ? Le pasteur a-t-il fait quelque chose de différent ? Rien. Il a prêché comme il a toujours prêché. Personne n'y comprend rien. Nous ne savons pas comment le Dieu éternel œuvre dans l'âme humaine. C'est une puissance qui nous dépasse. Une grâce qui nous dépasse. Et quand Dieu monte le temps, accélère un peu le pédale et donne un réveil, d'autant plus nous disons, on ne comprend rien. Comment ? Pourquoi ? Et Jésus dit que le royaume de Dieu est toujours comme ça. Et il va être comme ça dans l'implantation de cette église. Et nous donnons la gloire à Dieu. L'application pour nous qui est évidente, c'est est-ce que vous vous fiez à l'homme en tant qu'agent ? Ou bien est-ce que vous vous fiez à ce Dieu qui travaille sans que nous sachions comment ? Je vais vous tester. Est-ce que vous priez pour le culte ? Est-ce que vous priez pour les prédications des prédicateurs qui viennent ici ? Si vous ne priez pas, c'est que vous vous confiez à l'agent. Vous pensez, ah, nous avons tel pasteur ou tel autre prédicateur, parce que Pierre prêche aussi, il se débrouille vraiment, ça va. On peut se relaxer, on peut se reposer sur l'agent humain. Non, non. Parce que l'agent humain, quelles que soient ses capacités ou ses compétences ou son quoi que ce soit, il ne peut rien faire dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que nous allons faire dans cette implantation? Je vous supplie, mes amis, prenons à cœur cette parabole, que le royaume de Dieu n'est pas comme ça. Vous ne pouvez pas vous fier à moi, à Pierre, à n'importe qui. Nous devons être des hommes et des dieux désespérément dépendants du Dieu souverain. C'est comme ça que ça va se faire. Dans la parabole, Jésus dit qu'il y a des phases dans la croissance et nous ne voulons pas donner un sens à chaque détail, peut-être, mais je crois qu'il a quand même donné ces détails pour une raison et je dirais juste que ceci. Vous pouvez voir que... Pardon, je retrouve le passage. Vous pouvez voir que la terre, verset 28, produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé. Et tout cela d'elle-même. D'elle-même. C'est simplement une manière de dire sans l'homme. Et ça nous montre que dans toutes les phases, depuis la venue de Jésus jusqu'à son retour, tout ce que le royaume de Dieu doit faire et produire dans l'histoire humaine, toutes les phases sont entre les mains de Dieu. Pas seulement la première phase, ça c'était bien, mais il parle de toutes ces phases. La phase de l'épi, la phase, n'est-ce pas? Il dit, tout cela se passe sans cet homme. Ne vous découragez pas pour la France. Il y a eu des jours de gloire pour la France. La croissance du royaume de Dieu n'est pas uniforme. Ça nous dépasse. Pourquoi dans un endroit, à un moment donné, il y a un déclin spirituel? Et pourquoi, par exemple, dans la Drôme, boum! Fions-nous à Dieu, confions-nous à Dieu. Parce que tout est entre ses mains, toutes les phases. La fin du royaume... Enfin, la phase finale, Jésus dit que dès que le fruit est mûr, il y met la faucille. Pas on, mais il. La même personne qui a donné les débuts et puis qui est parti et qui semble ne rien faire parce que, œuvrant du ciel invisiblement, il n'y a pas besoin d'un agent humain pour produire, pour opérer. En tout cas, la phase finale est très différente du début, n'est-ce pas? Jésus est venu vers vous, et moi je vais vous parler, vous maintenant. Il est venu vers vous comme un semeur. Humblement, cette parole est venu vous chercher, n'est-ce pas? Mais attention, il revient, mais pas en tant que semeur. Il revient en tant que moissonneur. Et cette fois, ce sera l'éclat. Et cette fois, tout sera soumis à son action. Et ce sera soudain. Le Seigneur Jésus a dit que quand il reviendra, deux personnes seront au moulin, une sera prise et l'autre le sait. Il sera comme au jour de Noé, où tout le monde se mariait et fêtait jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche et le jugement de Dieu est venu détruire la race humaine. C'est incroyable, n'est-ce pas? Mais je vous promets que si aujourd'hui c'est le jour avant le retour de Jésus-Christ, si le Seigneur revenait demain, ce qui est possible, alors ce serait un jour comme aujourd'hui. Ce serait... pas exceptionnel. Vous n'aurez pas d'avertissement parce que vous allez répondre au semeur dans sa parole la folie de la prédication ou vous n'allez pas répondre. La fin sera soudaine. Alors, faisons très attention, chers amis, à notre manière d'écouter. Et bien plus rapidement, je vais évoquer la deuxième parabole. Moutarde. Alors, ce grain de moutarde, c'est la moutarde noire qui était cultivée dans le premier siècle en Palestine et utilisée pour beaucoup de pour épicer les plats et aussi en tant que médicament. C'est un grain qui mesure seulement 1 mm de diamètre, minuscule. Et jusqu'au point où on employait le grain de moutarde comme proverbe quand on voulait parler de la petitesse. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez lu votre Bible? Jésus dit, même si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, parce qu'on est habitué à utiliser le grain de moutarde quand on veut parler de petit. Les rabbins de l'époque, on a trouvé des écrits où ils disent, même une goutte de sang, une petite goutte de sang minuscule comme un grain de moutarde. Donc Jésus prend ce qui est vraiment difficile à prendre dans la main, à voir. Et il dit, le royaume de Dieu a commencé comme ça dans ce monde. C'est comme ça que Dieu a choisi de commencer son royaume glorieux. Ah, ça c'est le commencement. Nous pouvons penser à l'équipe de management de Jésus, les 12. Bon, les 12, il y en a un qui appartient à l'équipe adversaire, sans que les autres le sachent. Les 11 autres, ils sont toujours en train de ne pas croire à Jésus, de tomber dans la rivalité, même le soir avant sa mort, ils sont en train de se disputer. Qui est le plus grand entre nous ? 3 ans du ministère du Fils de Dieu parmi vous, et le jour avant sa mort, vous voulez vous demander qui est le plus grand entre nous? Il y en a un qui le renie 3 fois la nuit de sa mort, les autres fuient. Ils veulent reprendre leur activité d'avant. Et ça, c'est le début. Ça, c'est vraiment un grain de moutarde. Des hommes sans instruction, dans un empire très grand qui adore l'empereur et qui punit ceux qui n'adorent pas cet empereur. Et c'est eux qui vont aller annoncer que Christ est le Seigneur, pas César, dans le monde entier et conquérir le monde. D'accord ? Ça, c'est l'équipe de management. Et le message ? Le message, selon 1 Corinthiens 2, « J'ai décidé de ne rien connaître parmi vous sauf Christ et Christ crucifié. » Ils vont conquérir le monde en parlant d'un homme nu qui pend sur une croix. Ça, c'est leur message. Allez à la Sorbonne, si on vous donne l'occasion de parler devant les professeurs Auguste pour expliquer ce que nous faisons parmi les étudiants, nous les chrétiens sur les campus, dans nos mouvements chrétiens. Réunissez-les et puis donnez-leur ce message de cet homme qui pend nu sur une croix pour changer le monde entier. Voilà l'équipe de management, voilà le message, voilà un grain de moutarde. 3-4 siècles plus tard, l'Empire romain tout entier prend des vêtements chrétiens. Et le plus grand penseur de 15 siècles est un certain Augustin qui prêche la grâce du Dieu souverain par Jésus-Christ le crucifié. Le milieu est étonnant. Jésus dit dans la parabole ceci. Il dit que c'est la plus petite, verset 31, de toutes les semences qui sont sur la terre, mais lorsqu'il a été semé, il monte. Il monte. Lorsqu'il a été semé, il monte. Il croit. Il s'accroît. Il s'agrandit, il s'étend. Le caractère même du royaume de Dieu, c'est la croissance. Et là, il n'y a pas de croissance en nombre et en valeur. Le royaume n'est pas en train d'œuvrer là. Paf, parfois, on a des obstructions, des barrières, des empêchements. Mais le royaume de Dieu est comme un ruisseau. Vous essayez de barrer le chemin et ça va passer à travers, ou ça va creuser un trou au milieu. Donc, il dit qu'il monte, il devient plus grand que tous les légumes. Il pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. On nous dit au sujet de cette plante de moutarde qu'effectivement, après ce petit commencement, cette plante grandit jusqu'à 3, parfois 4 mètres. Ce n'est pas un arbre. Il n'y a pas de bois dans son tronc. C'est une légume. Mais elle est tellement grande, cette plante, qu'effectivement, on nous parle des oiseaux qui viennent percher dans ses branches. Et au malheur des fermiers, parfois, qui viennent, on a vu des groupes d'oiseaux qui viennent sur ces plantes et qui mangent les grains de moutarde. Voilà. Si, sans doute, Jésus se réfère à ces passages dans l'Ancien Testament, Ézéchiel, Daniel, où il est question donc d'une parabole aussi, où Nebuchadnezzar et son royaume est comme une plante qui grandit jusqu'à donner l'ombre sur toute la terre, et les oiseaux du ciel, dit l'Ancien Testament, viennent nicher dans ses branches. Et Jésus fait écho. Parce qu'il sait que les Juifs comprennent que ça, c'est la manière de parler d'un empire, d'un royaume qui est grand. C'est de dire que même tous les oiseaux viennent dans ses branches. Les gens de partout, de différentes nationalités, de différentes sortes, tous les oiseaux, on les voit dans l'église. Et vous voyez que cette plante devient plus grande que tous les arbres. Tous les arbres, toutes les plantes du jardin. Et cela nous rappelle de ce qu'il est dit dans Ésaïe, où le royaume du Seigneur est comparé, Daniel d'abord, où le royaume de Dieu est comparé à une pierre qui vient parmi vers ce statut qui représente les quatre grands royaumes de l'histoire. Et cette pierre devient de plus en plus grand, et puis il vient écraser la statue, les empires humains, et il remplit toute la terre. Et nous savons qu'en ce moment même, le royaume de Dieu est en train de faire des avancées inattendues. J'imagine de prendre le livre Flash sur le monde. C'est un livre qui donne les statistiques sur les évangéliques dans chaque pays. Des statistiques en détail. Combien d'églises en Chine, combien de dénominations, etc. J'ai la version la plus récente de ce livre. Imaginez prendre ça, donner ça aux 12 il y a 2000 ans et leur montrer en avance ce que le royaume de Dieu va devenir. Ils n'aurions pas pu imaginer de croire. 100 millions de chrétiens en Chine aujourd'hui. Au Kenya, l'évangile a été planté en Kenya seulement il y a 90 ans. Et maintenant, l'église évangélique en Kenya est la plus grande force du pays. On nous dit qu'il y a 25% de la population qui se dit chrétien évangélique, même si tout le monde ne l'est pas. Il y a, Pierre est en train de traduire un ouvrage d'un pasteur réformé baptiste kenyan, qui l'édifie, et il me dit que c'est tellement bien cet ouvrage que ça le rappelle de sa lecture de Calvin. Alors, Dieu est en train d'œuvrer d'une manière gigantesque. La plante grandit. Il y a des millions de gens qui affluent dans le royaume de Dieu. Et il y a des sols qui sont épineux et des sols qui sont pierreux et des gens qui rejettent aussi. Quel réalisme et quel encouragement nous avons à la fois dans les paroles du Seigneur qui nous dit la vérité sur son royaume et sur ce que nous devons attendre. Je termine. Pourquoi est-ce que tout cela est important? C'est important de comprendre comment le royaume vient et comment il progresse. Parce que nos cœurs pécheurs ont tendance à croire que quelque chose de tellement insignifiant qu'un grain de moutarde ou que l'Église chrétienne en France, ça ne peut pas être vrai. Il y a des gens qui, secrètement dans leur cœur, ils ne veulent pas entendre notre message parce que nous sommes tellement petits. Ils viennent dans un endroit comme ça et ça suffit. Ça suffit pour leur dire que ça ne peut pas être de la vérité parce que regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Mais Jésus nous avertit que sa manière est différente. Et Paul nous l'explique quand il dit que... Pardon. Il nous donne la raison. En nous disant, considérez frères que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, et Dieu a choisi les choses viles du monde, et celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. En tout cas, personne ne va donner de la gloire à l'Église évangélique française. Mais Dieu va sauver pour l'éternité un grand peuple pour lui, un grand peuple élu, ici en France. Il l'a fait, il le fera, il continue et il le fera. Si vous n'êtes pas croyant, ou vous n'êtes pas sûr d'être croyant, ou pour une personne peut-être qui écouterait ce message plus tard, parce que ils sont donnés à certaines personnes, il est important de ne pas juger selon ce critère. C'est le Christ, c'est le Fils de Dieu lui-même qui dit que le royaume de Dieu vient d'une manière complètement méprisable. Le Fils de Dieu lui-même a dû devenir méprisable. À cause de notre péché, il ne pouvait pas venir en tant que roi de gloire. Pour nous sauver, il fallait qu'il se joigne à nous, qu'il devienne un homme, qu'il porte notre misère et toute cette culpabilité et cette faiblesse que nous avons. C'est pour ça que le royaume doit venir comme ça. C'est à cause de notre péché. Vous voulez que Jésus soit obligé de venir méprisable, dédaignable, comme un rien, et que vous n'allez pas venir dans le royaume de Dieu à moins que ce soit quelque chose de glorieux, parce que vous-même, vous êtes glorieux. C'est de la folie. C'est de la folie. Si vous allez venir dans le royaume de Dieu, vous allez venir par le moyen de la croix. Ensuite, c'est important parce que il faut savoir que Dieu n'est pas en train de vous appeler quand même à venir dans quelque chose de méprisable pour toujours. Quand Dieu vous annonce la bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle, c'est une glorieuse nouvelle. Et chers amis, dans le livre d'Apocalypse, nous voyons une multitude que personne ne peut compter. Des hommes et des femmes, nous dit la Bible, de toute race, de toute tribu, qui, d'une joie indescriptible, louent le Seigneur, une famille d'amour, un monde d'amour, une formidable communauté qui dépasse tout ce que vous pouvez chercher dans ce monde. Les gens veulent appartenir à quelque chose. Ils veulent appartenir à quelque chose de bien. De bien, de bienfaisant. Je vous dis que la Bible vous annonce que cette famille que Dieu est en train de créer va dépasser infiniment tous les autres. Être membre de cette famille d'amour dans la présence de Dieu et de sa grâce qui sauve et qui soigne et qui nous chérit, c'est incroyable. Et la dernière chose que je voudrais dire par rapport à l'importance de ces paraboles, c'est que nous ne devons jamais perdre confiance, même quand les choses sont insignifiantes. Sans doute Jésus racontait ces choses à ses disciples parce qu'ils auraient perdu confiance. Imaginez-vous, dans ces premières années de l'Église chrétienne. Et qu'est-ce qu'on fait quand on perd confiance dans la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'on fait quand on regarde la grandeur et qu'on dit qu'il nous faudrait être plus nombreux pour avoir une influence? Qu'est-ce qu'on fait quand on ne croit pas dans une puissance invisible et secrète qui travaille je ne sais pas comment? Qu'est-ce que vous allez faire quand vous... Qu'est-ce que les évangéliques en France font quand ils perdent confiance dans la parole de l'évangile? La Bible dit que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit et que la parole de Dieu est vivante et agissante. Mais parfois, les gens commencent à perdre leur confiance. Et vous savez ce qu'ils font toujours quand ils perdent confiance? Ils cherchent à compenser par des techniques de marketing, par des agissements humains, pour essayer de donner un attrait à l'évangile que l'évangile, pour eux, n'a pas lui-même. Je vous donne un exemple. Dans les campagnes de Billy Graham, et je remercie Dieu pour Billy Graham, pour tous ceux qui sont venus au Seigneur par lui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont devenus. Mais il a fait une erreur à un moment donné, il a commencé à utiliser une sorte d'appel public dans ses campagnes. Et donc à la fin de ses sermons, dans ces stades où il y avait des milliers de gens réunis, il demandait aux gens de venir devant publiquement s'ils voulaient devenir chrétiens sur le champ. Et il devait signer une carte comme quoi je me donne à Jésus-Christ, je me convertis. Pour lui, c'était un moyen de tirer le filet. Parce que laisser les gens juste avec l'évangile, l'évangile qu'il leur a donné, il leur a donné l'évangile, ça ne suffisait pas. Il craignait que si je ne donne pas une occasion de mettre le clou de la décision dans la chose, ils vont peut-être pas se convertir. Donc il faut que je trouve une technique pour les amener à se décider tout de suite. Donc il faisait cet appel public. Le problème, c'est que dans toutes les prédications du Nouveau Testament, nous ne voyons jamais les apôtres ajouter à la simple annonce de l'Évangile, ajouter à l'Évangile lui-même une technique humaine, publique, par laquelle visiblement je signe une carte ou je fais quelque chose où je peux dire « là, je l'ai fait, je le sais parce que c'était visible ». Donc là, c'est clair. Les apôtres prêchent la parole et ils ont tellement confiance dans l'Évangile lui-même. Un pasteur m'a appelé de Lyon un jour, il a dit « mais si toi tu n'utilises pas un appel, comment est-ce que tu tires le filet ?» Pour lui, c'était impossible d'évangéliser sans donner une technique humaine à la fin. Je lui ai dit « Monsieur, le Saint-Esprit tire le filet. » Il tire le filet par l'Évangile. Les gens viennent et ils vous disent « Je voudrais te parler du baptême, pasteur. » Combien de fois ça m'est arrivé? Alors raconte-moi, je pense que je suis venu au Seigneur. Alors, discutons. Mais c'est un grand problème en France aujourd'hui, dans l'Église évangélique. Et c'est pour ça que j'ai fait lire par Pierre ce texte dans 2 Corinthiens 4, verset 1. Je veux juste vous demander, je promets, je termine là. C'est le dernier point, je veux juste illustrer cela. Mais regardez bien les propos de Paul dans 2 Corinthiens 4, verset 1. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons courage. C'est-à-dire, nous ne perdons pas confiance dans le royaume de Dieu et sa puissance. Et puis il explique ce qui arrive quand on perd confiance. Nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Le marketing, l'éloquence humaine, les appels, les cartes à signer. Nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Voilà. Nous voulons donc, chers amis, dans votre évangélisation personnelle et dans le travail de cette Église, annoncer l'Évangile, la semence à elle-même la puissance, par l'action du Saint-Esprit, de faire tout le travail. À la fin de sa vie, quelqu'un a demandé à Martin Luther, « Comment est-ce que vous avez pu bouleverser un pays entier, l'Allemagne ?» De sorte que ce pays a viré du catholicisme à l'Évangile tout entier. C'est pas tout le monde qui est devenu chrétien, mais le pays entier a été bouleversé. Il a dit, je n'ai rien fait. La parole de l'Évangile a tout fait pendant que Philippe et moi buvions de la bière à Wittenberg. Voilà, typiquement Luther. Mais il voulait dire exactement le message de cette parole. Confions-nous à Dieu, prenons encore plus confiance dans son royaume souverain et dans la puissance de son évangile pour la conversion des autres et pour notre sanctification. Et œuvrons, bien sûr, faisons ce qui nous appartient de faire. Nous allons chanter ensemble le chant numéro 143. Jésus, ton règne sans pareil.
Ô Seigneur Jésus, ton épouse mortelle, dès maintenant, gloire à la croix, gloire au Sauveur du monde, à ton amour, ô roi des rois, que notre amour répondre.
Je vous invite à prier. Sentez-vous libre de prier Dieu.
Seigneur, notre Dieu tout-puissant, tu es tout-puissant et ta parole nous dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau dans ta main, tu l'inclines là où tu veux. Seigneur, nous ne sommes que des humains et nous avons du mal à mettre ensemble ta toute-puissance qui fait que l'univers entier, dans le moindre de ses détails, t'est assujetti et notre propre responsabilité. C'est pourquoi nous te demandons ce matin, Seigneur, que, écoutant ta parole, tu travailles dans nos cœurs secrètement et que tu les ouvres et que tu nous donnes d'avoir la bonne réponse à l'annonce de ton évangile et que tu nous, vraiment, tu ouvres nos cœurs et que tu nous aides à trouver toute notre ressource dans ta parole, dans la foi en Christ, aussi bien pour venir à toi pour la première fois que pour rester avec toi et être encore plus sanctifié quand nous sommes déjà convertis. Aide-nous, Seigneur, nous avons besoin de toi et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Amen.
Amen.
Amen. Seigneur, nous te demandons pardon car nous sommes impatients et que nous prions et nous insistons pour voir les choses évoluer et, alors que c'est toi qui décides de tout, Père, au moment où tu veux qu'une église grandisse ou pas, c'est entre tes mains, Seigneur, et c'est toi qui es de loin le plus sage et pour bien faire grandir une église. Te demandons pardon de ne pas avoir suffisamment confiance et d'essayer de pousser. Accepte de nous aider à avoir pleinement confiance et de t'adresser les bonnes requêtes, Seigneur, et de faire ce qui est bon pour l'Église, mais en ayant ta parole sous les yeux, Seigneur. Merci encore pour ce message. Amen.
Amen.
Seigneur, merci parce que nous avons tous des terres arides. Et tu es venu en nous et tu as semé la semence. Seigneur, nous savons que c'est grâce à ton esprit, grâce au Saint-Esprit. Et nous demandons de continuer avec cet esprit à nous faire croître comme tu l'as fait jusqu'à maintenant. Et à faire croître ton royaume. Au nom de ton Fils Jésus.
Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te bénissons que même dans nos vies individuelles, tu nous fais croître et nous ne savons même pas comment. Certains péchés, certains problèmes, nous pensons devoir les comprendre afin de les vaincre, mais ce n'est pas vrai. Tu peux faire ce que nous ne pouvons pas sonder. Nous convoitons ton action, ta parole, toutes les influences de ton esprit, ton pardon renouvelé. Ne nous regarde pas selon nos péchés, Seigneur, mais selon la grâce immense de Jésus-Christ en qui nous sommes. Et nous prions que nous puissions annoncer ton évangile avec hardiesse, l'annoncer partout, et puis nous attendre à toi, afin que toute la gloire soit à toi, ô Dieu. Nous nous remettons à toi pour cette journée, ton jour. Nous prions que nous soyons bénis dans ta présence et que tu bénisses aussi ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Nous nous remettons à toi au nom de Jésus. Amen.
Amen.